dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Cet homme qui n'a pas été seulement qu'un écrivain, hein, donc, puisqu'il a, il a fait plein d'autres choses, et il le revendiquait, hein, il disait « moi je ne fais pas qu'écrire, je fais aussi mon bois, je m'occupe de ma famille, je marche, je lis, je vois mes amis, etc. » Donc, il décrit un petit monde, une petite montagne qui est un peu une tête d'épingle, sur la surface de la planète, mais qui en fait parle à toute l'humanité. Bon, on peut faire les plus belles photos du monde, on sera jamais aussi direct dans son expression que par les mots. Et je suis vraiment heureux effectivement de contribuer très modestement à la diffusion de cette pensée, de cette voix, qui est aussi extrêmement poétique, extrêmement belle. Bah, s'il y a un seul conseil à donner aux auditeurs, c'est d'aller un peu au hasard lire Mario Rigonistern, qui est vraiment une source de beauté, de fulgurance, d'apaisement, de poésie, de façon de voir les choses qui est absolument singulière.
Mario Rigonistern est né à l'ombre des montagnes, à Asiago, en Vénétie, là où les Alpes relient l'Italie à l'espace culturel austro-allemand. Il refuse, en 1943, de poursuivre la guerre aux côtés des Italiens de la République fasciste italienne.
Rigonistern s'échappe de Russie après une interminable fuite narrée dans son livre « Le sergent dans la neige », décidant tout simplement de rentrer chez lui, dans l'Altipiano, afin de retrouver sa vie en simple civil. Arrêté sur la frontière italo-autrichienne en septembre 1943, il est déporté dans un camp de prisonniers en Masurie.
« Nous avions derrière nous, écrit-il, l'histoire qui nous avait ouvert les yeux sur nous-mêmes et sur ceux dont on nous disait qu'ils étaient nos ennemis. Ce qu'on nous avait enseigné dans notre jeunesse était faux. Non, il ne fallait pas croire, obéir, combattre. Et l'obéissance ne devait pas être ni aveugle, ni immédiate, ni absolue. »
Rigonistern, après la publication de son premier livre, est devenu un auteur très populaire en Italie. Lui, qui ne se voulait ni se voyait écrivain, est, après la guerre, un modeste fonctionnaire au cadastre, revenu vivre parmi les siens dans l'Altipiano.
Et malgré ses succès d'édition, il vit retiré dans une maison construite de ses mains, à l'orée de la forêt, dans les environs d'Asiago. Là, il reçoit volontiers, sur un banc de bois, intellectuels et journalistes, venus prendre son avis, recueillir ses souvenirs.
Et aujourd'hui, Dissonance vous donne à écouter le récit de l'un d'eux, Loïc Séron, qui a eu la chance de rencontrer Mario Rigonistern. Passionné par son œuvre, ce photographe normand a tenu à rencontrer l'homme pacifiste et humaniste qu'était le sage d'Asiago.
Le résultat en est un magnifique livre de photos et de textes de Loïc Séron qui font écho, avec poésie, à la voix du témoin que fut Rigonistern, une voix qui est parvenue à garder son authenticité jusqu'à aujourd'hui.
On trouve rarement pareille cohérence entre l'homme qui vit et l'homme qui écrit. On trouve rarement une pareille densité d'écriture, écrivait Primo Levi sur son ami.
Nous avons peu parlé pendant la longue séance de photos au jardin à l'orée du bois. Mais ces silences éloquents, ta présence, ton regard m'ont profondément marqué.
Rapporte Loïc Séron dans son livre. Mario Rigonistern répondra à Loïc Séron par ces mots.
Les livres sont sur leurs étagères et tout est prêt pour un doux hiver. Un hiver comme je les aime, avec de la neige sur le toit et le silence.
ce sera le dernier hiver de Mario Rigoni Stern.
E io credo che la tradizione paesana.
Mario Rigoni Stern par Loïc Séron sur Dissonance.
Alors Loïc Séron, tu es l'auteur et même le photographe du livre Altipiano, cheminé avec Mario Rigoni Stern, un immense auteur italien. Avant d'en parler de cet auteur et de ton livre, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a conduit le petit Loïc Séron, originaire de Bernay, c'est ça, en Normandie, jusqu'à ces terres italiennes.
Bonjour, bonjour à tous. Ben, c'est un parcours sans doute très long mais pas forcément conscient, je dirais. Il y a beaucoup d'instinctifs, je crois, dans ma pratique photographique et autres. Mais en tout cas, il y a eu un amour de la montagne transmis par mon père et par mes parents, et des expériences en montagne, pas très loin de l'Italie, mais du côté du français, dans les Hautes-Alpes, depuis ma toute prime enfance. Et ça m'a sans doute marqué, enfin j'en suis sûr là, ça m'a marqué et ça m'a amené à être touché très profondément par l'œuvre de cet écrivain italien, effectivement, dont un jour un ami m'a donné un livre en me disant « Tiens, je pense que ça te plaira ». Donc effectivement, ça m'a plu. Et il se trouve que ces premiers livres de Mario Rigoni Stern, écrivain italien né à Asiago, donc dans le nord de la Vénétie, sur un haut plateau très particulier, que j'ai donc ensuite photographié, ces premiers livres, je les ai lus justement dans cette montagne des Hautes-Alpes, où j'avais vécu tant d'heures heureuses toute mon enfance, et ensuite, à partir de mes années de jeune adulte, où j'étais retourné pour des séjours très longs et toujours aussi bien heureux. Donc j'ai lu beaucoup Rigoni Stern, j'étais devenu photographe par passion. Après avoir fait d'autres choses, j'ai fait des études d'anglais, j'ai vécu longuement au Canada, j'ai enseigné l'anglais. Et puis je faisais déjà pas mal de photos, je faisais également de la musique, et je me suis rendu compte assez rapidement que finalement l'enseignement de l'anglais, c'était pas pour moi, ça ne retire rien à mon amour de la langue anglaise et de la pédagogie, mais j'avais plus envie de faire autre chose, donc j'avais arrêté d'enseigner. J'étais devenu musicien. J'ai été intermittent du spectacle pendant quelques années, et puis finalement la photo a pris le dessus. Et donc au moment de cette rencontre, en tout cas avec Rigoni Stern, oui, on peut dire que j'étais photographe. Et je terminais de monter une expo de portraits d'artistes. Donc j'allais présenter pour la première fois, donc on était en 2007, et j'avais déjà bien sûr le lieu de l'expo, dans un beau château en Normandie, chez un ami. J'avais toute l'expo, donc des artistes de tous horizons, mais avec le point commun bien sûr que ce sont des artistes qui me touchent particulièrement, que je lis, que j'écoute, dont je regarde les œuvres, etc. Et j'avais envie peut-être d'une cerise sur le gâteau, et puis pourquoi pas, ça s'est vraiment fait très simplement. Tiens, qu'est-ce que ce serait formidable d'avoir un portrait de cet écrivain que je découvre dans ces années-là, 2005, 6, 7, sans doute, je ne sais plus en quelle année j'ai lu Rigoni Stern pour la première fois, mais voilà, j'étais loin d'avoir tout lu, mais j'avais déjà compris que ça me touchait vraiment très profondément et que ça remuait des choses en moi. Voilà, je pourrais développer un peu plus tard, mais Tout vibrait en moi à la lecture de Rigoni Stern. Et donc j'ai effectivement contacté son éditeur, un de ses éditeurs français, les éditions La Fosse aux Ours à Lyon, qui m'a donné son numéro de téléphone. Je parlais très 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 peu italien, je le comprenais pas mal, mais je le parlais peu, j'ai préparé un peu mon coup, j'ai téléphoné, c'est Madame Rigoni Stern qui répondait au téléphone. Accueil très chaleureux. Oh, mais oui, bien sûr, venez, venez, quelle date. On a pris une date. Et puis je suis allé à Asiago en juin 2007 et j'ai eu la chance de passer 2 heures en compagnie de Marion Rigoni-Stern.
Et avant d'évoquer ce moment de rencontre, pourquoi ça vibrait autant? Est-ce que c'était la dimension montagne qui crée un lien entre son œuvre et ta petite enfance?
Oui, sans doute. Moi, je fonctionne beaucoup par rétrospective. Je réfléchis rétrospectivement à ce qui m'est arrivé, à ce que j'ai pu vivre, ressentir, etc. Et donc, rétrospectivement, je pense que oui. Quand j'étais gamin et que je passais des étés entiers dans un chalet d'alpage dans les Hautes-Alpes, un chalet qui était resté quasiment intact depuis l'époque où il avait été abandonné après des siècles d'occupation à 1850 mètres, j'essayais d'imaginer à quoi pouvait ressembler le paysage, comment c'était, parce qu'il restait bien sûr plein de traces, des murs, des petits murs, des chemins, des canaux, on voyait que des champs encore, il y avait dans la grange, il y avait des bottes de paille, de seigle qui étaient plus grandes que moi et qu'on cultivait à l'époque jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Tout ça, ça me fascinait, mes parents en parlaient, on essayait d'imaginer tout ça. Et quand j'ai lu Rigoni-Stern, j'ai trouvé des descriptions de son pays à lui, un peu plus bas en altitude, hein, mais quand même, c'est le plateau d'Asiago est à 1000 mètres, mais les montagnes grimpent ensuite jusqu'à 2300 mètres. Et lui décrivait une société rurale, extrêmement pauvre et rustique, dans laquelle on cultivait, on entretenait des chemins, des murs, on vivait avec les animaux, on plantait, on récoltait, etc. Bon, il y avait la dimension aussi pastoralisme. Moi j'étais copain avec le berger quand j'étais gamin et puis je descendais en courant avec lui quand il ramenait les brebis à la bergerie. Et Rigoni-Stern, il raconte, bien sûr, il était ami avec les fromagers des fermes d'altitude, il suivait les troupeaux. Bon. Donc c'est sans doute ça, hein, par cette porte-là, parce que finalement, il y a énormément de portes d'entrée dans l'œuvre de Rigoni-Stern. Après, lié bien sûr à cette activité qu'il a décrite minutieusement, il y a une voie écologiste de la première heure, qui est d'une puissance absolument formidable. C'est un des précurseurs de la pensée écologiste globale. Par la suite, quand on lit son œuvre, évidemment, on prend la mesure de la dimension pacifiste de ce grand humaniste qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale en tant que soldat chasseur alpin de l'armée italienne, et donc il a connu 5 ans des pires vicissitudes imaginables que puisse vivre un soldat. Il en est revenu vivant par miracle. Donc il y a tous ces récits de guerre, hein, dont le plus connu est bien sûr Le Sergent dans la neige, qui est un monument de la littérature mondiale, qui a révolutionné aussi la façon de raconter la guerre. Donc il a vécu la guerre, il l'a prise de plein fouet, hein, et il l'a raconté ensuite comme personne, et bien sûr il est devenu un grand pacifiste et il a écrit des très belles pages sur la paix et la fraternité entre les peuples. Il y a cette porte-là, il y a la dimension histoire, donc histoire de la guerre bien sûr, mais aussi de la première guerre qu'il n'a pas connue, hein, puisqu'il était né en 21, mais qu'il a très longuement documenté sur son plateau du nord de la Vénétie, qui était à l'époque, avant la première guerre, à la frontière avec l'Empire austro-hongrois. Tout avait été absolument dévasté, chamboulé par la première guerre. Donc le paysage dans lequel il a grandi emportait des traces très fraîches et en comporte encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des kilomètres de tranchées qui subsistent et puis des trous d'obus par millions dans lesquels il jouait enfant. L'histoire, voilà, une dimension historique. Et puis après, un grand autodidacte passionné et qui a, par sa curiosité, sa recherche, ses observations, ses lectures, est devenu un spécialiste de tout, de la faune, de la flore, des insectes. Et puis, voilà, un rapport à tout ça, à la nature, une façon de se sentir et se tenir strictement à l'égal de toute autre chose vivante. Et rien, surtout rien de plus, rien de... voilà. Tout ça, ça, effectivement, ça vibre, ça m'intéresse, ça me touche, je trouve ça c'est une œuvre d'une grande sensibilité, d'une grande justesse et d'une portée absolument universelle. Ces livres n'ont pas pris une ride, bien au contraire. Plus ça va, plus ils sont pertinents, plus ça va, plus ils sont d'actualité. Moi, je suis très sensible aux questions environnementales, climatiques. Lui, il nous montre des voies. Dans tous ses livres, il nous dit qu'un rapport harmonieux de l'homme dans son milieu ambiant est possible. Donc, par tout ça, il nous montre des chemins possibles et on en a vraiment besoin.
Con immense montagne che la chiamano al nord e con fiumi d'acciaio fra mille ciminiere, con pallidi orizzonti interrotti dai boschi e la malinconia che la ama da sempre, con un mare di nebbia che ritorna ogni giorno e con il vento d'autunno sentitelo abbracciare questa pianura che è la mia, con alte cattedrali che sembrano montagne e campanili neri come alberi di cuccagna, dove diavoli di pietra strappano nubi al cielo con il filo del giorno come unico viaggio, con la pioggia che sola ti dice buonasera, con il vento di ottobre sentitela afferrare questa pianura è la mia, con il cielo così basso che un canale si è perso, con il cielo così basso che vivi inginocchiato, con il cielo così grigio che il naviglio si è impiccato, con il cielo così grigio che lo devi perdonare, con il vento d'inverno che si apre su di lei e sotto il ghiaccio di gennaio sentitela tremare questa pianura che è la mia, quando il vento d'estate fa tornare il sorriso e ogni donna ritrova la sua voglia di amare, quando cose perdute si ritrovano ancora, quando suda la terra sotto il caldo del sole, quando il vento accarezza le distese di grano con il vento del sud. Sentitela cantare questa pianura che è la mia.
E io credo che la tradizione paesana.
Mario Rigoni Stern par Loïc Séron sur Dissonance.
Il peut arriver parfois, Loïc, que quand on rencontre l'homme qu'on admire par ses écrits, on soit déçu par l'être humain. Est-ce que ça a été le cas ?
Pas du tout, non, effectivement, c'était un grand humaniste, très chaleureux, très accueillant. Il m'a accueilli comme il a accueilli tant et tant de lecteurs, de journalistes. Il était très sollicité et très généreux de son temps. Il consacrait 2 jours par semaine à répondre à son courrier, par exemple. Donc, quiconque lui écrivait recevait une réponse écrite à la main de Mario Rigoni Stern. Sa femme, qui répondait au téléphone, comme je disais tout à l'heure, essayait aussi de se tenir un peu sur le pas de la porte pour qu'il ait tout simplement du temps pour travailler. Parce que lui, par nature, il avait envie de recevoir tout le monde et d'accueillir tout le monde. Donc... Elle m'a ouvert la porte en grand, donc j'ai eu cette chance-là. Et non, j'ai été très bien reçu, mais comme je parlais très peu italien et lui très peu français, c'est aussi une rencontre qui s'est faite beaucoup en silence. Il y a eu beaucoup de silence et une espèce de sérénité, c'est un moment très paisible. Il m'a quand même accordé donc 2 heures de son temps. Il m'a laissé faire 2 pellicules de portraits, c'est-à-dire voilà, 72 photos, peut-être 73, 74. Donc très voilà, patient aussi avec ce photographe qui venait de loin pour lui tirer le portrait. Encore une fois, rétrospectivement, parce que je suis sorti de ces 2 heures émues, bouleversées, mais sans trop le savoir pourquoi, parce qu'il n'y avait pas eu de paroles absolument intenses ou bouleversantes, mais j'ai été bouleversé et il s'était vraiment passé quelque chose. Et c'est quelque chose qui a un peu infusé en moi pendant longtemps. Et ça continue, j'ai continué de lire ses livres, hein. J'avais pas, comme je disais, j'avais pas tout lu au moment où je suis allé chez lui. Et ça a continué de croître vraiment cet intérêt pour cet homme qui n'a pas été seulement qu'un écrivain, hein, donc, puisqu'il a fait plein d'autres choses. Il le revendiquait, hein, il disait « moi je ne fais pas qu'écrire, je fais aussi mon bois, je m'occupe de ma famille, je marche, je lis, je vois mes amis, etc. » Une voix assez singulière, il s'est tenu un peu en marge du Gotha littéraire, il n'est jamais descendu de sa montagne, même quand on l'invitait, et même quand tout le monde allait vers la ville. Et puis il n'a jamais écrit de fiction véritablement, et ça c'est quelque chose d'assez singulier quand même pour un écrivain de cette envergure. Il a publié des récits, hein, les récits de guerre, il a publié des chroniques, on va dire, de la vie de cette montagne, et puis... Tout au plus, il a amalgamé des histoires qu'il a connues ou dont il a entendu parler dans des espèces de récits un peu romancés, mais voilà, je pense aux 3, à la fameuse trilogie, hein, du Haut Plateau, qui commence avec l'histoire de Tenley, qui continue avec le livre qui s'appelle L'année de la victoire, et le 3e, c'est les saisons de Giacomo. Qui se trouve être voilà, le premier livre que j'ai lu de lui. Voilà, pas de fiction, mais vraiment des récits, de la chronique. Et peut-être que ça contribue aussi à rendre ces récits totalement intemporels et universels, parce qu'il décrit un petit monde, une petite montagne qui est un peu une tête d'épingle sur la surface de la planète, mais qui en fait parle à toute l'humanité.
Malgré les problèmes de langue et de communication entre lui et toi ce jour-là, quand tu es dans sa maison, est-ce qu'il s'est intéressé à toi? Est-ce qu'il s'est demandé comment tu as parcouru autant de kilomètres et pourquoi pour venir le rencontrer?
Oh, bah, je lui ai expliqué cette expo de portraits. Sa femme était là, hein, quand on était dans la maison, quand on est sortis faire les photos, on était juste tous les deux. Mais tous les deux, effectivement, ils m'ont interrogé, ils m'ont dit « ah bon, mais est-ce qu'il y aura d'autres Italiens dans cette galerie de portraits ?» Alors, l'expo était vraiment pour dans quelques semaines, quoi. Donc j'avais peu de temps. J'aurais eu un autre souhait. J'aurais beaucoup aimé pouvoir photographier le chanteur italien Gian Maria Testa. Malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Mais je leur en avais parlé ce jour-là, et ils ne connaissaient pas. Alors voilà, oui, ils étaient sans doute surpris, mais bon, vous savez, il y a 13 thèses de doctorat qui ont été écrites sur l'œuvre de Rigoni Stern, il y a des kilomètres d'articles de presse qui ont été écrits sur lui, il y a eu des documentaires filmés, il y a eu des interviews radio, enfin, il était extrêmement sollicité, alors tout en restant tout à fait modeste, je pense qu'il comprenait que... qu'un photographe vienne s'intéresser à lui. Mais effectivement, ma démarche, elle n'était pas liée à la publication d'un portrait dans un journal. Par exemple, je sais qu'un photographe français avait été envoyé chez lui pour accompagner un dossier de fond dans le magazine qui s'appelle Le Matricule des Anges, par exemple. Et souvent... Effectivement, quand je vais voir des artistes pour les photographier, on me demande « ah, mais pour qui travaillez-vous? Ce sera pour quel organe de presse? Ben, moi, c'était pour une exposition. Donc, et puis maintenant, évidemment, ces portraits se retrouvent dans mon livre. Il l'ouvre et il le referme. Et voilà, non. Effectivement, notre communication a été assez limitée. Mais il y a eu, je pense, ne pas exagérer en disant qu'il y a eu une transmission, quelque chose. Je suis ressorti de ces deux heures transformé. Et si on y pense, on est quand même en 2022, c'est une rencontre qui a eu lieu en 2007. J'ai commencé à retourner, je suis retourné pour photographier ce paysage que j'avais entrevu ce jour-là brièvement en 2014. Puis voilà, à plusieurs reprises, j'y suis allé à toutes les saisons, sur 2014 et 2015. J'ai présenté l'expo à partir de 2016, j'ai publié une première version de ce livre en Italie en 2016. L'expo a tourné en 2016, 2017, 2018, donc j'y suis retourné beaucoup. J'ai continué de photographier ce paysage de rendre visite à tous ceux qui étaient devenus mes amis, ses fils, sa famille, ses proches, etc. Les gens qui s'intéressent de près à son œuvre, son biographe, et puis également sa traductrice en France, etc. Et c'est véritablement quelque chose qui a, d'une certaine façon, changé ma vie, a eu beaucoup d'impact sur ma vie. Et puis parce qu'après, évidemment, bah, c'est une façon de penser les choses, de réfléchir à ses choix. Quand on se retrouve devant un dilemme, on se dit, tiens, bah, que ferait Mario? Qu'en dirait-il? Voilà, donc c'est quelque chose qui est une espèce de compagnonnage extrêmement riche. Donc véritablement, c'est quelque chose d'important dans ma vie j'accueille ça avec un bonheur immense, parce que ce sont des rencontres en boule de neige qui n'en finissent plus. Il faut que j'évoque bien sûr l'écrivain italien Paolo Cognetti qui m'a offert une magnifique préface pour mon livre, que j'ai rencontré parce que je l'ai lu et j'ai compris qu'il était comme moi amoureux de l'œuvre de Rigoni Stern, et donc on s'est rencontrés, on est devenus amis, il m'a invité en montagne. Voilà, ça n'en finit plus, c'est un plaisir, un bonheur, et puis il y a cette espèce de magie Rigoni Stern qui, par-delà la mort, hein, puisqu'il est mort un an après notre rencontre, m'ouvre des portes, me fait rencontrer des amis, et c'est merveilleux dans un monde par ailleurs brutal, pas forcément apaisant, c'est un euphémisme. voilà, donc c'est quelque chose qui me fait du bien.
It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know, find a girl, settle down, if you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Oh, I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, I think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
E io credo che la tradizione paesana.
Mario Rigoni Stern par Loïc Séron sur Dissonance.
Loïc, est-ce que Mario Rigoni Stern a vu sa photo?
Alors, il n'a pas vu l'expo. Il a vu, je lui ai envoyé une petite sélection des photos que j'avais faites. Et j'avais l'habitude de demander, en tout cas demander l'avis des personnes photographiées sur le choix de la photo, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, parce que bah, quand on se regarde en photo, on a du mal à être extrêmement objectif. Et puis, comme je disais, l'expo a eu lieu très rapidement après notre séance de photos. Donc, le temps qu'ils me répondent, j'avais déjà fait mon choix. Et en fait, comme je n'arrivais pas à choisir, j'en avais mis deux d'ailleurs. Lui, il en aurait choisi une autre. Je pense qu'elle était moins bien. Donc, voilà. En tout cas, il a vu une petite sélection des photos que je lui avais, que j'avais faites de lui. Et puis, ensuite, bah, bien sûr, moi, j'ai offert à sa femme qui a vécu très âgée jusqu'à ces derniers mois. Elle est décédée très récemment. Madame Rigoni-Stern a 99 ans et 9 mois. Elle aurait eu 100 ans le jour du printemps cette année, en 2022. Donc, évidemment, j'ai donné des photos, ces portraits que j'aime bien et que sa famille et ses proches aiment bien aussi. Oui, Mario les a vus en tout cas.
Dans ton livre, Loïc, tu rends hommage aux écrits de Rigoni-Stern, mais aussi à ces paysages de l'Altipiano qui apparemment t'ont aussi touché et marqué.
Oui, oui, c'est vraiment quelque chose de très singulier. Donc, il faut imaginer comme une espèce d'île au milieu de la terre. Hein. C'est un haut plateau. Donc, la plaine du Pô est extrêmement plate. Hein. Quand on monte vers le nord depuis Venise, on dépasse la ville de Vicence, et on arrive quasiment au pied d'un mur qui fait quasiment 1000 mètres à pic. Et puis, donc, en haut, un haut plateau extrêmement verdoyant, des collines ondulantes, absolument enchanteresses, vraiment, j'exagère pas, c'est assez stupéfiant. Et puis ensuite, ça monte, ça continue de monter, la forêt, et puis ça devient, on dépasse la limite des arbres, vers 1006, 1007, et ça monte jusqu'à 2003. Et c'est très rocailleux, et puis ça replonge de l'autre côté quasiment à pic, hein, vers la vallée suivante. On n'est ni dans les Alpes, ni dans les Dolomites, on est dans ce qu'on appelle les pré-Alpes Vicentines. De là-haut, on voit, d'un côté, on voit jusqu'à Venise, et de l'autre côté, on voit les Alpes, et puis au nord, on voit les Dolomites. C'est, donc déjà, rien que pour ça, c'est un peu à la frontière de pas mal de monde. Et puis, effectivement, c'est un paysage très sauvage, très, voilà, c'est un paysage de montagne, mais extrêmement marqué par la présence humaine et marqué par le travail de l'homme. Et il y a peu de paysages aussi beaux que les paysages de montagne travaillés par l'homme. Donc, il y a ces fermes d'altitude et puis toutes les pistes qui permettent de les rejoindre, des sentiers, évidemment, à l'infini, et une grande diversité de paysages, hein, puisqu'on a... On a la douceur et puis et le côté dramatique des à-pics vertigineux. Et puis le nuage fait partie du paysage, c'est-à-dire que c'est pas du tout une météo méditerranéenne, hein, italienne typique, donc on est vraiment au nord. Hein. Donc des brumes, le jour où je suis allé quand même, c'était au mois de juin, où j'ai photographié Rigoni-Stern, il y avait une espèce de brume un peu partout. Un peu purée de pois, j'en ai connu beaucoup. Le séjour que j'ai fait pour photographier l'été, j'ai passé 3 semaines quand même, il a plu tous les jours, donc c'est particulier. Il y a des gammes de vert absolument fabuleuses, des gammes de bleu l'hiver, hein, le bleu du froid de l'hiver, parce que c'est un territoire où les températures tombent très bas, hein, c'est souvent là-haut qu'on enregistre les températures les plus froides d'Italie, et bien sûr l'automne absolument sublime avec ces millions d'arbres, etc.
Qu'est-ce qui a poussé Mario Rigoni-Stern à passer au stade de l'écrit? Parce qu'il aurait très bien pu vivre comme il a vécu sans avoir envie de manifester cette envie-là.
Oh, il y a beaucoup de réponses à cette question. Et effectivement, c'était un garçon de la montagne. Il n'est pas allé à l'école très longtemps, mais il a vu très tôt la passion du livre. Il est devenu avide de lecture très jeune. Donc il y a ça. Ça s'est poursuivi toute sa vie. Ensuite, effectivement, il aurait pu prendre la suite de son père et de son grand-père qui faisaient le commerce des produits de la montagne, des produits laitiers principalement. Gamin, il avait suivi dans la charrette du père les parcours qu'il faisait pour aller dans les malgues au pluriel, qui sont ces petites fermes d'altitude, chercher le beurre, le fromage, le lait, etc., qu'il descendait au village et ensuite qui l'emmenait dans la plaine. Il y avait un voyage par semaine qui se faisait bien sûr avec la charrette, le cheval, les mules. Donc il aurait pu faire ça, mais l'activité familiale dans les années 30 a commencé à péricliter. Il y avait vraiment une grande pauvreté et comme beaucoup de jeunes montagnards, il a choisi de s'engager dans les chasseurs alpins. Il a passé un concours à Aoste, un concours extrêmement difficile dont il est sorti reçu. Et à 17 ans, il a intégré un centre de formation, on va dire, une école de chasseurs alpins à Aoste. Et pour lui, évidemment, c'est pas la même montagne, hein. On est au pied du Mont Blanc. Il y a des montagnes beaucoup plus hautes et beaucoup plus vertigineuses et des glaciers qu'il ne connaissait pas. Donc il s'est découvert une passion pour l'alpinisme et pour les courses en montagne, et pour le ski, etc. Et il était extrêmement dynamique et joyeux et téméraire. Et donc il s'est vraiment révélé dans cette activité. Là, évidemment, on était très loin d'une pensée de guerre, hein. Quand on a 17 ou 18 ans et qu'on court les sommets, on pense pas du tout à la guerre. Malheureusement, la guerre arrivait. Et ensuite, il a vécu des expériences de guerre en France, brièvement, en Albanie et en Grèce. Et ensuite, il a fait deux séjours en Russie, dont le deuxième, ça a été un cataclysme absolu pour les chasseurs alpins italiens, dont à peu près 12% sont revenus vivants. Quand il est revenu, l'Italie a capitulé et les quelques survivants des soldats italiens, les Allemands en gros, ont quasiment exigé d'eux de poursuivre le combat et de poursuivre le combat auprès de la grande armée allemande. Et les chasseurs alpins dont Rigaud Nisterne avait compris l'objectif, le dessin d'Hitler, la solution finale, et beaucoup ont refusé. Et c'est pour ça que le titre d'un livre d'entretien qui est sorti il y a une dizaine d'années avec Rigaud Nisterne porte le titre « Le courage de dire non ». Parce que les chasseurs alpins ont eu le courage de dire non, mais ils ont payé ce non de 2 ans de séjour dans des camps en Allemagne et ailleurs. Camps de travail, mais limite de concentration, on va dire, où des dizaines de milliers d'entre eux sont morts, de maladies, d'épuisement, etc. Et lui a réussi à s'en échapper. Et lui qui était revenu de Russie quasiment à pied, par 40 degrés sous zéro, avec ses camarades, à l'hiver 42-43, il est revenu chez lui une nouvelle fois à pied, tout seul. Il avait réussi à fuir du dernier camp où il était retenu prisonnier, vers Graz, dans ce qui est aujourd'hui l'Autriche. Il est revenu malade et amaigri, il est revenu vivant. Et pendant ce séjour dans les camps, et pour ne pas oublier, il avait commencé à écrire. Il a écrit, le premier jet du Sergent dans la neige en camp, sur un petit rouleau de papier qu'il gardait dans le fond de son sac à dos et qui restait dans le fond de son sac à dos pendant longtemps puisqu'il a été publié seulement en 56 en Italie. Et donc il y a eu ça, l'écriture par souci, dans l'urgence d'écrire pendant que les souvenirs sont frais, pour témoigner, pour honorer ceux qui n'en sont pas revenus, etc. Et puis ensuite, sans doute, pour continuer de retenir les leçons de l'histoire, pour apaiser des pensées, des tourments, des idées qui venaient bien sûr agiter son sommeil. Il a voulu témoigner toute sa vie Donc ça, je parle bien sûr des récits de guerre. Et puis après, il a trouvé un grand épanouissement dans les vocations de la vie de cette montagne.
Mario Rigoni Stern par Loïc Séron sur Dissonance.
Et quand on parlait tout à l'heure du paysage marqué par les hommes, il faut parler de son origine, de ses ancêtres. Rigoni Stern, il venait d'une tribu, hein, il était descendant d'une tribu qu'on appelle les Cimbres, et qui ont peuplé le haut plateau d'Asiago vers l'an 1000, qui était à l'époque complètement inhabité, complètement recouvert par la forêt. Et ils y installent une société très pauvre, évidemment, mais totalement démocratique et égalitaire, sur des principes absolument passionnants d'organisation sociale, où tout le monde est au même niveau. Donc, ce qui explique plein de choses de ce qu'a pu écrire Rigoni Stern par la suite, où chaque foyer est représenté par un chef de famille dans une assemblée qui élit quelques représentants pour des mandats uniques de 2 ans. Voilà un modèle de démocratie qui est bien loin de ceux que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, tout un territoire organisé sur le principe des biens communs et de la propriété collective. Donc voilà encore un autre aspect de notre porte d'entrée dans l'œuvre de Rigoni Stern qui me réjouit et qui me passionne. Et ce qui est réjouissant et passionnant, c'est que beaucoup de ces usages antiques qui ont perduré pendant des siècles sont encore valables aujourd'hui. Sur ce haut plateau, encore aujourd'hui, toute la forêt est de propriété collective et toutes les fermes d'altitude que j'évoquais tout à l'heure sont propriété véritablement des habitants et régies très simplement mais très efficacement par une petite institution locale qui gère l'exploitation de la forêt.
Et avant de terminer, moi j'aimerais qu'on parle de ton livre, parce qu'il y a ces photos magnifiques, mais il y a les textes de Rigoni Stern, mais moi ce qui m'a passionné dans ce livre, c'est ton écriture, que je ne connaissais pas, enfin en tout cas pas ce style, et je trouve que tu as un magnifique hommage, et que tu n'es pas qu'un photographe. Pour moi, tu es aussi un auteur, et que ce que t'a donné Rigoni Stern, c'est pas que des contacts avec tout un tas de gens, c'est aussi cette façon d'écrire.
Peut-être, j'en serais tellement honoré et heureux, mais très modestement, j'ai ressenti au fil des années le besoin d'ajouter des mots en regard de mes images, en tant que complément, hein, et non pas en tant qu'explication de ce qu'il y a à voir sur les images. Ça, je pense que ça se complète très bien. Les écoliers italiens lisent Rigoni Stern, qui est au programme, hein, qui est un grand, c'est un classique. Hein, certains de ses livres sont étudiés dans les programmes scolaires. Moi, je viens de Normandie, même si voilà, j'ai des origines très diverses, espagnol entre autres, mais aussi belge, un tout petit peu de belge, voilà. Un pur produit européen, et puis bien sûr, quand on vient d'Espagne, ça veut dire qu'on vient sans doute de bien plus loin, si on remonte un peu plus haut, dans l'arbre. Mais finalement, on vient tous de la Corne de l'Afrique, hein. De toute façon, c'est très simple, et c'est très bien comme ça. Peut-être que j'ai eu envie de raconter sa vie, qui il a été, ce qu'il a fait. Donc, les quatre premiers chapitres de mon livre, c'est une espèce d'esquisse de sa vie. Et puis, après, bah, évidemment, c'est ma façon peut-être de voir les choses. Je suis heureux d'avoir pu voir parfois de faire des rapprochements entre des épisodes qui lui sont arrivés à des époques très différentes. Bon, voilà. Et le dernier chapitre, c'est une lettre que je lui écris, et là c'est beaucoup plus personnel, et ça me permet de raconter ses histoires d'enfance dans les Hautes-Alpes, ma découverte de son œuvre, ma découverte de son paysage. Et, bon, c'est le principe qu'il a utilisé dans un livre. Il a écrit un jour un des chapitres d'un de ses livres qui s'appelle « En attendant l'aube », je crois. C'est une lettre à un peintre qu'il n'a pas connu, puisqu'il c'est un peintre vénitien qui a vécu il y a 4 siècles, je crois, Jacopo Bassano. Et lui, il était très admiratif de ses œuvres, et il avait étudier un peu son histoire, il avait compris que ce peintre, Jacopo Bassano, avait séjourné sur le haut plateau. Et donc forcément, il regardait ses toiles d'un autre œil, et puis il croyait voir sur les paysages des montagnes qui ressemblaient aux siennes, etc. Donc un jour, il lui écrit une lettre. Et j'ai trouvé que le principe était très beau, ça permet de dire tu, ça permet de dire des choses voilà, personnelles, et puis... Voilà, donc le dernier chapitre de mon livre est plus poétique, plus personnel. Et puis, j'y ai mis beaucoup de moi, je pense. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, écrire, qui me demande beaucoup de temps. Mais j'y tiens beaucoup, et je pense que j'y consacrerai beaucoup de temps à l'avenir, en tout cas je l'espère, et ça se combine bien avec la marche à pied. J'ai beaucoup marché pour faire ce livre, et je marche beaucoup d'une façon générale, et ça se combine bien avec la pratique de la photographie. Moi, j'aime beaucoup les projets au long cours, j'aime bien prendre du temps pour faire un livre. Il faut une certaine lenteur, c'est très contemplatif, hein, et ça va bien avec l'écriture. Et puis c'est bon, on peut faire les plus belles photos du monde, on sera jamais aussi direct dans son expression que par les mots. Donc c'est vraiment effectivement quelque chose qui s'impose à moi, et que il faut que je soigne.
Et là, tu popularises l'œuvre de Mario Rigoni Stern, un auteur majeur dans la littérature italienne. Pourquoi il est aussi mal connu en France ?
Il est quand même connu. toute son œuvre est traduite en français. Et ses lecteurs français, certes moins nombreux, sont tout aussi fervents que ses lecteurs italiens. On le découvre et on le redécouvre. Alors pourquoi, je ne saurais pas le dire. C'était pas quelqu'un d'extrêmement médiatique. Encore une fois, il n'a pas écrit de fiction. Alors peut-être que les romanciers sont plus connus. On connaît le Baron Perché plus que le Sergent dans la neige. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est réjouissant en Italie et en France, c'est que des jeunes s'intéressent à lui, le lisent, ils voient des clés, des ouvertures, des pistes. Et ça, c'est réjouissant, vraiment. C'est pas un écrivain qui est en train de tomber dans l'oubli, c'est tout à fait le contraire. Donc, et je suis vraiment heureux, effectivement, de contribuer très modestement à la diffusion de cette pensée, de cette voix, qui est aussi extrêmement poétique, extrêmement belle, en plus d'être voilà, riche de tous les enseignements qu'on vient d'évoquer. Donc, s'il y a un seul conseil à donner aux auditeurs, c'est d'aller un peu au hasard, parce qu'on peut picorer à droite à gauche, lire Mario Rigoni Stern, qui est vraiment une source de beauté, de fulgurance, d'apaisement, de poésie, et une façon de voir les choses qui est absolument singulière. Il arrive qu'on le rapproche de Giono ou du Suisse Ramu. En fait, c'est vraiment ni l'un ni l'autre. Hein. C'est un peu, effectivement, ce sont des parentés, mais c'est une voix à nul autre pareil. Et c'est très attachant, c'est très touchant, c'est poignant, et c'est d'une grande clarté d'expression, et c'est d'une grande simplicité. Enfin, c'est très difficile d'écrire un texte qui semble simple. Donc, et lui, il fait ça à longueur de page, et puis comme c'est avant tout un grand humaniste, tout est vu à hauteur d'homme, et donc les portraits qu'il dresse du moindre petit paysan de cette petite montagne est absolument éblouissant.
Est-ce que tu voudrais nous raconter de mémoire cet épisode où, quand il revient de Russie à pied pour rentrer chez lui? Voilà, je te dirai la suite et ça sera la conclusion de l'émission.
Alors, quand il revient plutôt du camp, je pense, sans doute le 9 mai 1945, c'est tout à fait bouleversant. Il atteint la frontière italienne, il a marché pendant la nuit pour éviter de croiser des soldats allemands qui repartaient, eux, dans l'autre sens. Il manque de peu de se faire fusiller par, justement, des Allemands qui sont là sur une espèce de carriole de fortune. Et puis là, il tombe sur des Italiens. Il passe par un camp. Il se retrouve derrière des barbelés une nouvelle fois. Il voit passer un gradé qui l'interpelle. Il lui explique d'où il vient, parce qu'effectivement, les soldats italiens en 45, ils revenaient pas tous de camp. C'est-à-dire qu'il y en a qui avaient, comme on disait tout à l'heure, continué de se battre. Et donc, il réussit à sortir de ce camp avec l'aide du gradé. Il reprend sa marche à pied, il se fait prendre par un camion, et puis il arrive au pied de son haut plateau. Et alors là, à ce moment-là, il faut savoir qu'il faisait 42 kilos, qu'il était fiévreux, qu'il était malade, il n'avait pas l'énergie de monter. Enfin, et puis, quelqu'un le reconnaît, lui dit « Ah, écoute, il y a un camion, des partisans qui montent à Asiago, là, tu dois pouvoir le... » Quelqu'un l'emmène sur un vélo, bref, il réussit à monter sur ce camion, et le camion s'arrête devant un des grands hôtels d'Asiago qui avait été occupé par les partisans, et il descend à grand peine, et là il parcourt Il parcourt les 200 derniers mètres. Il décrit ça dans un livre qui s'appelle Sentier sous la neige, je crois, et c'est la première nouvelle. Extrêmement émouvante. La nouvelle s'appelle Que tu es maigre, frère. Et il l'écrit à la troisième personne du singulier pour pas avoir à dire je. Il décrit ses derniers pas. C'est une toute petite rue, la rue où s'est levée la maison familiale. Et il dit, il passe devant les trois portes, les cinq arbres, et il fait une espèce d'énumération. Une rue dont il connaissait le moindre caillou, il y avait joué pendant toute son enfance. Et c'était la plus belle rue et la plus longue rue de toute la terre et la plus belle. Et il approche de chez lui et son frère. En fait, sa famille avait été prévenue qu'il arrivait, et donc il savait quand même, et son frère le guettait par la fenêtre.
Merci Loïc Serron.
Cette émission est à entendre sur les ondes de Radio Saint-Afrique ainsi que sur celles des radios partenaires.
Vous pouvez aussi la podcaster à votre guise afin de l'écouter quand et où cela vous plaira.
Le lien pour le téléchargement se trouve sur la page internet de l'émission en allant sur les sites de dissonance.ovh ou de Radio Saint-Afrique.
Vous trouverez aussi sur ces pages des informations complémentaires sur l'ouvrage Altipiano, cheminé avec Mario Rigoni-Stern de Loïc Serron, paru aux éditions de la rue d'Ulm, ainsi que divers liens sur Mario Rigoni-Stern.
Salut
et fraternité.